il a écrit un livre sur la scène originaire de Madame Bovary, une des raisons pour lesquelles il est ici. Et il va parler aujourd'hui des combres de Laura Flaubert face à l'émergence du kitsch. Donc on fait un grand saut.
Encore que Philippe Dufour a fini par Haussmann, et moi je vais parler de la période avant Haussmann, on pourrait dire, donc celle qui préfigure le kitsch, justement. Bon, tout d'abord, je voudrais remercier toute l'équipe Fractale d'avoir eu la gentillesse de m'inviter, tout particulièrement à Anne et Barbara, et spécialement Dagmar, qui a eu le courage de me chercher sur Internet à partir de ce livre déjà publié il y a bien longtemps. Et ma présence ici, d'ailleurs, me donne le bonheur de revoir de vieilles connaissances, et en particulier Jacques Neff, qui m'avait guidé dans mes travaux il y a déjà bien des années. Donc, Flaubert et le kitsch. Flaubert fut un explorateur qui sut se frayer un chemin au sein d'une contrée alors encore vierge, où guettaient des dangers insoupçonnés. En écrivant Madame Bovary, il avait pénétré dans un territoire de végétation luxuriante et épineuse, le royaume du kitsch, au cœur duquel reposait une jolie princesse qui attendait en vain son prince charmant. Autour d'elle ne poussait plus aucune fleur bleue, mais au contraire une fleur artificielle qui exhalait un parfum mielleux et nuisible. Bien des années plus tard, en 1927, Walter Benjamin constatait avec amertume que l'époque de la poésie authentique s'était évanouie. « Rêver de la fleur bleue, disait-il, ce n'est plus de saison. Pour se réveiller aujourd'hui dans la peau d'Heinrich von Ofterdingen, il faut avoir oublié l'heure. » Pour Benjamin, les rêves n'ouvraient plus sur des lointains d'azur, mais constituaient au contraire des chemins de traverse menant au banal. Car le côté par lequel la chose s'offre aux rêves, c'est le kitsch. Peu de personnages illustrent mieux ces considérations que la Belle au bois dormant de Toste ou de Yonville, elle qui, au trot de son imagination sentimentale, se réveillait dans un monde de rêves factices, alors que son mari ronflait paisiblement à ses côtés. Avec Madame Bovary, Flaubert découvre un nouveau continent esthétique, qui justement venait d'émerger alors, où prolifèrent toutes sortes d'émanations engendrant des miasmes insalubres dont Emma sera la première à souffrir les effets funestes. Car le kitsch est un mal, une calamité, un fléau. Ce n'est pas seulement du toc, c'est le faux qui prétend passer pour authentique et précieux. C'est ce qui encense les traits que l'on associe au beau, ou du moins à une certaine idée stéréotypée de la beauté. C'est tout ce qui semble joli et évoque le bonheur. Il ne s'agit pas d'une expression artistique, ni même d'un art de mauvaise qualité, mais d'une attitude esthétique qui adhère à l'art parce qu'elle en extrait l'apparence au lieu du suc. Le kitsch, comme un parasite, s'empare des formules consacrées de l'art, des styles qui en leur temps avaient été innovateurs et originaux, et qui en offrent un souvenir tangible tout en se présentant comme de l'art authentique. Au XXe siècle, quand il était déjà aisé de remarquer tout le parti que le totalitarisme avait su tirer du kitsch, Hermann Broch se proposa d'alerter contre le danger qui couvait sous ce phénomène. Pour le romancier viennois, le kitsch devrait être considéré comme le mal dans le système des valeurs de l'art, et même dans tout système de valeurs. Il y aurait en ce sens erreur à vouloir envisager le kitsch simplement comme une question d'esthétique, alors qu'il s'agit d'une catégorie éthique. Le système du kitsch exige, disait Broch, de ses partisans, fait du beau travail, alors que le système de l'art a pris pour maxime le commandement éthique, fait du bon travail. C'est pourquoi le producteur de kitsch, celui qui copie des œuvres d'art et travaille en vue d'obtenir avant tout un bel effet, n'est pas quelqu'un qui produit de l'art de basse qualité, je cite. Il n'est pas un incapable, il est, n'hésitons pas à le dire, un méchant homme, un réprouvé selon l'éthique, un criminel qui veut le mal radical, ou pour prendre un ton un peu moins pathétique, il est un salaud. Flaubert offre dans Madame Bovary un superbe échantillon de ce genre d'individu. Mais si l'on accepte Homais, personne n'incarne mieux ce type de malveillance que Rodolphe Boulanger, le don Juan de pacotille de Yonville. Flaubert nous le montre par exemple en train d'écrire la lettre de rupture qui brisera l'âme d'Emma. « Oh mon Dieu, non, non, n'en accusez que la fatalité », lui écrit-il, alors que dans son fort intérieur, il pense que ce mot fait toujours de l'effet. Telle est justement la fonction du kitsch, provoquer un effet sentimental. Aussi, en finissant la lettre, ajoute-t-il un dernier adieu, séparé en deux mots, « à Dieu », ce qu'il jugeait d'un excellent goût. Comme on peut voir, le mauvais goût de Rodolphe n'est que le reflet d'un esprit auquel il manque tout principe éthique. Sous cet aspect, le kitsch est la patine qui se forme sur le style du fumier. Milan Kundera, dans l'art du roman, signalait que Flaubert avait découvert la bêtise et que quelques 80 ans après qu'il eût imaginé Emma Bovary, un autre écrivain, Hermann Broch, avait parlé de l'effort héroïque du roman moderne qui s'oppose à la vague du kitsch, qui n'est en fait que la traduction de la bêtise des idées reçues dans le langage de la beauté et l'émotion. Il serait en réalité plus juste de dire que Flaubert avait découvert le kitsch en même temps que la bêtise dont elle n'était que l'image artistique, une figure en apparence banale dont il avait été le premier à rendre visible le regard de Méduse. Omniprésent dans toute son œuvre, le kitsch joue dans Madame Bovary un rôle primordial car il s'y manifeste avec la virulence d'un fléau qui apparaît pour la première fois. Au moment où il écrit son roman, il observe autour de lui une prolifération du kitsch sans précédent dont il est facile de retrouver les traces à chaque page. On conviendra qu'il était même particulièrement bien placé pour contempler ce nouveau phénomène, ayant eu l'occasion d'assister en personne à la consécration du kitsch dans le temple du progrès que l'on avait élevé à cet effet de l'autre côté du canal de la Manche. Le 20 septembre 1851, dans un petit mot qu'il lui envoie, Gustave Flaubert annonce à Louise Collet, non sans quelque solennité, qu'il a commencé la veille au soir Madame Bovary. Il entrevoit des difficultés de style qui l'épouvantent, dit-il, et on imagine sans mal l'ours de Croisset enfermé dans sa tanière, attelé à son bureau, ne répondant à aucune sollicitation pendant des semaines. Et pourtant, rien que 4 jours plus tard, il doit interrompre son travail afin d'accompagner à Londres sa mère qui désirait voir la grande exposition du Crystal Palace, la première exposition universelle. Ils s'y rendent le 30 septembre par une journée d'atroce brouillard. Lors de la visite, au lieu de se borner à flâner sous les immenses nefs et transepts de cette sorte de moderne cathédrale en fonte et en verre, Flaubert, fidèle à sa morale d'artiste, observe avec le plus grand soin ce qui était exhibé en consignant même sur un carnet plusieurs objets qui avaient retenu son attention. Il s'y intéresse surtout aux choses originaires de l'Inde et de la Chine, qu'il représente par le détail dans un langage d'extrême objectivité et précision qui fait songer à ces fameux objets qu'il décrira dans Madame Bovary. Ainsi, par exemple, le style architectural de la coiffure d'une chinoise, ou encore celui de cet énorme éléphant enharnaché que l'écrivain reproduit au début de son carnet et qui évoque singulièrement la monstrueuse casquette composite de Chère Bovary, atteinte elle-même d'une curieuse éléphantiasis ornementale. On retrouve même dans cette coiffure des expressions « losange s'alternant losange de velours s'alternant, broderie, fil d'or, manière de gland, qui figurait déjà disséminé dans la description du harnais de ce grand mammifère, concrètement dans son tendelet brodé à gland alternativement d'or et d'argent, ou dans la grande housse en velours rouge brodée de losanges d'or. Mais on aurait tort de croire que Flaubert n'avait retenu de la grande exposition que ces quelques objets exotiques avec lesquels il aurait simplement voulu se faire la main, comme s'il s'agissait de l'étude d'un peintre d'après nature. Même s'il n'en souffle mot ni dans son carnet ni dans sa correspondance, Flaubert n'ignorait pas que tout autour de lui, dans une atmosphère féerique, se déployait la plus grande exhibition de ce beau mis à la portée de tous, comme il disait, de ce sublime à bon marché qu'il détestait tant et dont il comptait dénoncer la nature néfaste dans le roman qu'il venait juste d'amorcer quelques jours auparavant. Il y avait en effet du kitsch à profusion dans ce bazar qui passait pour un palais de cristal, de quoi en prendre plein la vue, de quoi en être même intoxiqué jusqu'à tout rendre sur les pages qui l'attendaient au retour. Édifié à l'origine au sein du Hyde Park, le Crystal Palace de Paxton était une sorte de serre gigantesque qui abritait même sous le berceau de son transept de vieux ormes que l'on avait voulu conserver. Mais il avait été également conçu comme apothéose, à échelle monumentale, de ces passages parisiens qui, pendant la première moitié du XIXe siècle, avaient influencé de nombreuses constructions et où, pour la première fois, les marchandises avaient été présentées au regard de tous, derrière des vitrines, comme des idoles à l'intérieur de petites chapelles. Au lieu de cultiver des fruits exotiques, dans ce grand jardin d'hiver qui était le palais de cristal, on exhibait pour la première fois les produits manufacturés venant du monde entier, environ 100 000 produits dans à peu près 14 000 devantures, comme s'il s'agissait d'œuvres d'art qui, par miracle, auraient poussé là la veille. En montrant les marchandises parmi des fontaines, des palmiers et des statues d'apparence classique, on était parvenu à fondre dans une même ambiance sphérique le monde naturel et réconfortant de toujours avec les nouveautés du progrès industriel, facilitant ainsi leur acclimatation dans cet endroit. Grâce à la décoration de Owen Jones, à la luminosité générale et à une perspective si étendue, le visiteur se trouvait sous l'effet d'une atmosphère que l'on n'avait jamais rêvée auparavant. Comme remarquèrent la plupart des chroniqueurs de l'époque, c'était le seul bâtiment où l'atmosphère devenait visible, où l'éclat extrême s'évanouissait dans un flou brumeux, où enfin, en se plaçant à l'une des extrémités de cet édifice de plus de 500 mètres de long, on pouvait admirer les parties les plus éloignées enveloppée dans une aura bleuâtre. Tout cela produisait une impression de fantaisie et de rêve qui transportait les visiteurs de toute l'Europe dans un univers fabuleux où les désirs semblaient s'accomplir, comme si à l'intérieur de ce palais de cristal, tout ce que l'on avait imaginé dans les vieux contes de fées devenait réel grâce à la magie du progrès. Dans le palais de cristal où les Parisiens à Londres, un vaudeville représenté pour la première fois le 26 mai 1851 à Paris, Clerville et Cordier avaient parfaitement exprimé le genre de magie qui se manifestait à Hyde Park. Chaque industrie exposant ses trophées dans ce bazar du progrès général semble avoir pris la baguette magique des fées pour enrichir le palais de cristal. Et ce monde fabuleux qu'offrait le progrès était au service du bonheur national et même universel. Les travailleurs, soldats de l'industrie, fiers des succès qu'ils savent conquérir, ne chantent plus « mourons pour la patrie », mais disent tous « vivons pour l'enrichir ». Nul ne périt sur ce champ de bataille. Une médaille est le prix du vainqueur. À l'atelier mériter la médaille, c'est au combat gagner la croix d'honneur. Riches, savants, artistes, prolétaires, chacun travaille au bien-être commun. Et s'unissant comme de nobles frères, ils veulent tous le bonheur de chacun. Pour un peu, on se croirait au comice agricole de Yonville. Le Crystal Palace, qu'elle avait visité 2 mois avant Auguste Flaubert, inspirait également à Louise Collet une rêverie à Hyde Park, dans un même ton, bien que cette fois tout à fait sérieusement, où la grande exposition devient l'emblème du progrès universel et fraternel. Je cite « Dans les ormes altiers qu'il couvre et qu'il domine, le palais de cristal, merveille d'Orient, miracle d'art et d'industrie, symbole du progrès vainqueur qui fait du monde une patrie, n'ayant qu'un bras, n'ayant qu'un cœur », disait Louise Collet. Flaubert, qui voyait les choses avec bien plus d'ironie que sa maîtresse, n'oubliera pas ce qu'il avait vu à Londres au moment d'écrire son roman, en particulier la scène des fameux comices. Philippe Hamon avait déjà constaté, précisément, que les comices agricoles ne sont que les doubles, caricaturaux et provinciaux, des grandes expositions universelles de la capitale. Dans l'ordre chronologique de la fiction, il serait plus juste de dire que les comices, que l'on peut situer à peu près aux environs de 1842, préfigurent les expositions universelles. Mais il est évident que Flaubert a incorporé à cette scène l'ambiance et la rhétorique pompeuse qui en émanait. Dans un article excellent consacré à ce sujet, Anne Green soutient que l'exposition universelle est d'une importance capitale pour Madame Bovary, et elle démontre, je crois que de façon convaincante, que les traces de cette foire sont manifestes aussi bien dans la scène des comices que dans la visite de la filature en construction ou même dans la rencontre d'Emma et Léon dans la cathédrale de Rouen. Or, ce n'est pas à l'exposition de 1851 de Londres que songe Anne Green comme modèle et source d'inspiration de Flaubert, mais à l'exposition universelle de Paris inaugurée en 1855. Probablement, les discours qui circulaient en France autour de ce nouveau spectacle ont apporté du matériel de premier ordre à Flaubert. Mais il convient de rappeler que, comme l'atteste la correspondance de l'écrivain, à l'exception du dernier épisode relevé par Green, celui de la cathédrale, les scènes auxquelles elle fait allusion étaient déjà écrites en 1853, soit avant que l'exposition parisienne ait eu lieu. Quoi qu'il en soit, en visitant le Crystal Palace en 1851, au moment où elle commençait à édifier son roman, Flaubert a eu l'occasion de contempler pour la première fois l'immense creuset où l'art et l'industrie se mélangeaient pour être fondus en un art industriel destiné à recevoir tout l'éclat du kitsch. Véritable temple du capitalisme, les expositions universelles sont, selon la célèbre formule de Benjamin, les lieux de pèlerinage où l'on vient adorer le fétiche marchandise. C'est que, comme a précisé à sa suite Suzanne Bookmorse, le progrès devint une religion au XIXe siècle. Les expositions universelles, ces sanctuaires sacrés, les marchandises, ces objets de culte, et le nouveau Paris de Haussmann sont Vatican. La reine Victoria, qui avait l'habitude de visiter presque quotidiennement le Crystal Palace, avait parfaitement saisi le genre d'expérience que l'on éprouvait dans ce sanctuaire. Je cite « On se sentait empli de dévotion, bien davantage qu'à n'importe quel service religieux auquel je n'ai jamais assisté. » Elle avait bien raison. Et Karl Marx, qui se trouvait à Londres cette même année, se serait sans doute fait un plaisir de lui signaler, s'il en avait eu l'occasion, que la fantasmagorie qu'elle ressentait n'était que le résultat du fétichisme qui s'attache aux produits du travail dès qu'ils deviennent des marchandises. Un phénomène mystérieux dont il faut faire appel aux régions nébuleuses du monde religieux pour trouver quelque chose d'analogue. Ce que quiconque entrevoyait dans l'atmosphère bleuâtre du Crystal Palace, c'était la transfiguration de la marchandise en objet férique. À l'intérieur de la cathédrale du Progrès se rendait visible comme nulle part ailleurs à cette époque la nouvelle aura qui enveloppait tous ces nouveaux fétiches du monde industriel, alors même que celle qui émanait jadis des œuvres d'art était justement en train de disparaître sous l'effet de la reproductibilité technique. De l'aura d'unicité et d'authenticité, il ne restait plus que des ruines et des décombres, d'où poussait un art éclectique et luxuriant, monstrueux à force d'être vulgaire. En 1851, à Hyde Park, on ne fêtait pas seulement le progrès. On était là aussi pour proclamer officiellement la naissance du royaume du sublime à bon marché, du kitsch. L'acte était même présidé par une reine qui, tout au long de son existence, montra un attachement obsessionnel pour ses objets, pour ses fétiches. Le kitsch est un phénomène de nature religieuse. On explique d'habitude son origine, ou du moins l'essor prodigieux qu'il prit pendant la seconde moitié du XIXe siècle, comme la conséquence des transformations culturelles provoquées par l'avènement de la démocratie et de la révolution industrielle. Pour Greenberg, par exemple, il s'agirait d'une nouvelle marchandise qui viendrait satisfaire les besoins de la petite bourgeoisie et des paysans établis dans les villes comme prolétaires, récemment alphabétisés, qui avaient perdu le goût pour la culture populaire, mais n'étaient pas pour autant capables d'apprécier l'art authentique. Emma Bovary, fille d'un fermier qui l'avait élevée comme une princesse, avide de romans, empoisonnée par les libraires, comme soutenait sa belle-mère, pourrait bien être la figure emblématique de ces nouveaux lecteurs et lectrices pour lesquels on fabriquait des livres spécifiques. Mais il convient de rappeler que la formidable entreprise de consommation universelle, culturelle, mise en place à l'époque de Flaubert, repose avant tout sur une manifestation de nature essentiellement spirituelle. Le kitsch, en effet, comme le signale Roger Scruton, est un phénomène religieux, une tentative de déguiser la perte de foi, en remplissant le monde avec des émotions factices, une moralité factice et des valeurs esthétiques factices. C'est bien ce que suggère Flaubert lui-même dans l'éducation sentimentale à travers la décadence de Jacques Arnoux, ainsi que l'a souligné Juliette Frolich. L'homme kitsch qui est le propriétaire de l'art industriel, Arnoux, sera peu à peu contraint à vendre des faïences, puis terminera sa carrière comme marchand de bons vieuxeries. Une telle déchéance révèle la nature religieuse du kitsch dont Arnoux incarne dans le roman la figure du producteur. Et du coup, par un effet rétroactif, les tableaux qu'il vendait jadis dans l'art industriel sont ravalés au même rang que les objets de piété de mauvais goût avec lesquels son visage se confond même dans la boutique. La dimension religieuse du kitsch ressort avec d'autant plus d'évidence si on la rattache à la notion d'aura, ainsi que l'a fait Céleste Olalkiaga dans son extraordinaire étude sur le kitsch. Pendant des siècles, la culture fut inséparable du culte. Issue d'une vision sacrée de la vie, l'œuvre d'art ne pouvait en aucun cas être dissociée de sa fonction rituelle, et quiconque contemplait par exemple une statue antique de Vénus ou une image de la Vierge au Moyen Âge sentait l'unicité de cet objet de culte, ce que Benjamin désignait justement comme son aura. Avec le désenchantement du monde qu'entraîna l'illustration, le fondement théologique de l'œuvre d'art authentique souffrit un ébranlement considérable. Mais l'aura ne disparut pas tout à fait et l'on pouvait encore la reconnaître dans les formes profanes du culte de la beauté, en particulier avec l'avènement du romantisme. C'est avec l'apparition de la photographie, en tant que forme de reproduction vraiment révolutionnaire, que l'art sentit les premières secousses d'une crise sans précédent à laquelle on essayait de réagir en revendiquant un art pur, une théologie de l'art, qui, chez le martyr de la phrase, était manifeste dans le désir d'écrire un livre sur rien. Mais la reproduction en série, qui rapidement s'imposa dans tous les domaines de la culture, engendrant une prolifération de copies et même d'œuvres conçues pour être déjà reproduites, fit sortir l'objet de son halo métaphysique en détruisant son unicité. Dès lors, l'aura ne survécut plus que sous une forme fragmentaire, comme de minuscules morceaux de miroir réduits en poussière, des débris que Céleste Olalkiaga a su identifier avec cette version dégradée de l'art qu'est le kitsch. Le kitsch, dit-elle, c'est justement cela. Les débris éparpillés de cette aura, des traces d'images de rêve détachées de leur matrice. Multipliés par le rythme incessant de l'industrialisation, ces débris recouvrent le vide laissé par l'effondrement de l'aura et par l'échec de la modernité à livrer sa promesse d'un avenir radieux. Ce qu'Emma contemple autour d'elle, ce qu'elle souffre en sa propre chair, c'est le moment où l'aura, qui avait conféré au romantisme une bonne part de son prestige culturel, s'effondre imperceptiblement en ne laissant voir que des décombres. Avant d'essayer de reconstruire Carthage à partir de ses ruines, Flaubert réalisa dans Madame Bovary une archéologie du kitsch destinée à en montrer la nature et les conditions d'apparition en observant les évolutions de son héroïne. Les premiers signes importants de l'émergence de ce phénomène dans le roman surgissent de façon significative quand Emma Rouault entre au couvent. Déjà la veille, dans l'auberge où elle descendait avec son père, elle avait remarqué au moment du souper des assiettes peintes qui représentaient l'histoire de Mademoiselle de la Vallière. Les explications légendaires, coupées çà et là par l'égratignure des couteaux, glorifiaient toute la religion, les délicatesses du cœur et les pompes de la cour. Dans ces assiettes, où l'on peut lire comme dans un livre, s'entremêlaient la religiosité, le sentiment amoureux et la pompe, car Louise de la Vallière, après avoir été la favorite de Louis XIV, entra au couvent pour y mener une vie pieuse et austère. Une conversion que la propagande catholique, comme l'a remarqué Pierre-Marc de Biasi dans son édition de Madame Bovary, ne tarda pas à exploiter en inondant le pays d'images dévotes dont les pièces de la vaisselle qu'Emma avait sous les yeux ne sont qu'un échantillon. L'assiette, où elle entrevoyait déjà comme dans un miroir ses désirs de pompe et de mysticisme, deviendra pour elle un souvenir qui, bien des années plus tard, résonnera douloureusement dans sa mémoire quand, en proie à la monotonie de son mariage et de sa vie, elle sentira que toute l'amertume de l'existence lui semblait servie sur son assiette. Forme prototypique du kitsch, élaborée sans doute encore de façon artisanale, peut-être même par les bonnes sœurs, l'assiette de Mademoiselle de la Vallière représente pour Emma une sorte de relique, un souvenir du désir naissant qui se développera dans toute sa plénitude derrière les murs du couvent. C'est là que l'esprit d'Emma fleurira comme dans une serre à la chaleur des images dévotes, des keepsakes et des romans des vieux cabinets de lecture, avant de s'épanouir en un mysticisme qu'elle ira cueillir parmi les ruines du romantisme. Comme a soin de le souligner le narrateur, parce qu'elle rejetait comme inutile tout ce qui ne contribuait pas à la consommation immédiate de son cœur, étant de tempérament plus sentimental qu'artiste, Emma n'aimait la mer qu'à cause de ses tempêtes et la verdure seulement lorsqu'elle était clairsemée parmi les ruines. Il n'y a là rien de bien surprenant, car son sentimentalisme émerge des décombres du romantisme. Herman Brock, à nouveau, soutenait que le kitsch ne pouvait être né que du romantisme, et même qu'au lieu de considérer le XIXe siècle comme le siècle du romantisme, il conviendrait plutôt de l'envisager comme celui du kitsch. Une période d'où ne seraient issus que quelques chefs-d'œuvre sur un fond de médiocrité et de sentimentalisme. Emma Bovary, dont l'existence s'écoule entre 1818 et 1846 environ, alors même que le romantisme s'émiette en kitsch, ne parvient plus à s'orienter au sein d'un brouillard de poussière que l'on prend pour des étincelles et où l'on chercherait en vain l'authenticité. L'héroïne de Flaubert soulève tout autour d'elle un monde de fantaisie dans l'illusion qu'en disparaissant de sa vue, le réel cessera enfin d'opposer son inébranlable résistance au désir. Par la magie de son regard, par exemple, les alentours vulgaires de Yonville se métamorphosent alors, pour un instant seulement, en un paysage aux contours fluides qui évoque un lac lamartinien. Emma vit dans une sphère de rêve, comme si elle demeurait enfermée dans un de ces presse-papiers qui devinrent si populaires quelques années plus tard, et qui sont de nos jours le paradigme même du kitsch, dont il suffit d'un petit coup de main pour voir tomber doucement des flocons de neige ou des paillettes dorées sur un paysage ravissant. La réalité qu'elle entrevoit de l'autre côté, déformée par les réfractions de son désir, projection d'un monde qu'elle s'est peuplé elle-même dans sa fantaisie, devient pure rêverie jusqu'au moment où elle se réveille en sursaut et découvre que la blanche neige n'était que du sable ou de la sure du bois voltigeant dans un univers transparent, répétitif et claustrophobe, une poussière blanche comme l'arsenic qu'elle finira par avaler à poignée et qui, après sa mort, semblera même ensevelir son visage. La poussière dorée qui commençait à envelopper toute chose de son aura était pour Emma encore plus dangereuse que la poussière de l'ennui. Tostes, le petit village où Emma vivra après son mariage, capitale de l'ennui qui semble être sous l'effet de quelques sortilèges, est envahie par une poussière qui enterre et efface la surface de tous les objets. Pour donner un exemple, dès qu'elle visite sa nouvelle maison, Emma remarque une grande pièce avec quantité de choses poussiéreuses dont il était impossible de deviner l'usage. À Tostes, la persistance de la poussière ensevelit imperceptiblement les rêves et enveloppe tout désir dans une rêverie morose. Yonville, la ville où les Bovary déménageront pour se débarrasser de la mélancolie d'Emma, justement, est également recouverte de poussière. Mais il s'agit à présent d'une poussière dorée, où le désir semble avoir la possibilité de fleurir. La poudre étoilée qu'est le kitsch commence justement à se répandre à Yonville au moment où Charles et Emma s'y installent. À leur arrivée, on en découvrait déjà les premières traces en observant l'amour qui, le doigt posé sur la bouche, décore le jardin du notaire, ou même sur la mairie, manière de temple grec construite sur les dessins d'un architecte de Paris. Imitation donc d'une autre imitation, soit un véritable sanctuaire du mauvais goût. C'est l'endroit que, bien à propos, choisira plus tard Rodolphe pour séduire Emma en tissant une allégorie du bonheur truffé de lieux communs d'origine romantique. C'est lors de ces fameux comices que l'apparition du choléra esthétique et moral que commence à souffrir Yonville devient particulièrement sensible, surtout dans les discours de tous les personnages qui s'y rencontrent. L'exposition régionale, préfiguration des expositions universelles, représente une véritable explosion du kitsch qui demeurait latent, une exaltation de ses plus diverses manifestations, bien sentimentales, rhétoriques, opéristiques, etc., entremêlées pour composer un hymne à la bêtise et au mensonge. Tout ici est pompeux, et les pompiers d'abord, qui font acte de présence, moins pour prévenir un incendie que pour aviver l'éclat de l'événement, et je cite, « On voyait alternativement passer et repasser les épaulettes rouges et les plastrons noirs. Cela ne finissait pas et toujours recommençait. Jamais il n'y avait eu pareil déploiement de pompes. » Les pompiers sont bien pompeux, si j'ose dire. Flaubert, grand amateur de calembours, joue comme d'habitude avec les mots. Et ce faisant, il désigne avec ironie l'essence même des comices en visant l'art pompier, ainsi désigné justement par allusion à l'aspect fastueux des casques que portaient alors les pompiers, qui devint pendant la seconde moitié du XIXe siècle la forme la plus prétentieuse du kitsch parce qu'elle aspirait justement à exprimer le sublime. En réalité, les pompiers de Yonville arrivent en retard, car la déflagration pompeuse avait déjà eu lieu quelques jours auparavant, ou je dirais plus, quelques pages auparavant, lorsque le désir qu'Emma avait étouffé dans ses braises avait fini par être attisé jusqu'à provoquer un véritable incendie d'images de proportions colossales. On connaît le fragment. Dès lors, ce souvenir de Léon fut comme le centre de son ennui. Il y pétillait plus fort que dans une steppe de Russie, un feu de voyageurs abandonné sur la neige, etc. Je ne poursuis pas, on connaît le passage. Ce passage d'anthologie révèle le danger qu'il y a à jouer avec le feu, justement. En le lisant, on a l'impression que son auteur a voulu trop bien faire, se laissant emporter, comme Lieuvin ou Homais lui-même, par la métaphore, jusqu'à rendre l'allégorie tout à fait ridicule. Le 11 juillet 1853, Flaubert, lui-même, faisait part de son inquiétude à Louise Collet. « Je viens de sortir d'une comparaison soutenue qui a détendu presque deux pages. C'est un morceau, comme on dit, ou du moins, je le crois. Mais peut-être est-ce trop pompeux pour la couleur générale du livre et me faudra-t-il plus tard le retrancher ?» Mais, justement, au bout du compte, Flaubert n'y a pas touché, et de cette façon, ce passage flamboyant surgit au sein du roman comme la pointe d'un iceberg, si une image si glaciale est ici permise, et même comme un monument ironique au kitsch. En renonçant à éteindre ce feu de voyageur qui resplendit dans le ciel avec la pompe des feux d'artifice, l'écrivain sonnait l'alarme, avertissait du danger qui planait sur un art qui commençait à être envahi par une poussière de paillettes hautement inflammable. Gustave Flaubert est le premier à avoir perçu et dénoncé dans un roman le caractère nuisible de ce nouveau phénomène. Jusqu'alors, aucune œuvre n'avait fait un usage si abondant et conscient du kitsch, pour la simple raison que ce produit typique de la modernité était justement en pleine gestation à l'époque d'Emma Bovary et venait seulement de naître, sans être pourtant encore baptisé avec une étiquette, quand son créateur écrivait son roman. Jacques Chessex, qui a montré la fascination du kitsch qu'éprouvait Flaubert et a même offert tout un catalogue de ses diverses manifestations dans Madame Bovary, considère que c'est parce que le monde est formidablement kitsch qu'Emma perd la partie. Il serait plus exact, à mon avis, de dire que son existence finit en tragédie parce que le monde est en train de devenir kitsch justement à ce moment. Le problème d'Emma réside moins dans sa soif d'atteindre l'impossible que dans son acharnement à accomplir des désirs qui n'avaient plus d'objet authentique, qui n'avaient plus d'assises. L'héroïne de Flaubert évolue entre deux époques qui sont deux mondes, à travers un passage où le passé et l'avenir s'entrecroisent et où l'on ne peut s'arrêter bien longtemps. Claude Duchet, qui a mis en évidence sans doute pour la première fois l'importance du kitsch chez Flaubert, signalait à ce propos que Madame Bovary, dont l'action se situe à l'époque de l'essor parallèle de l'industrie et de la bourgeoisie, est le roman d'une transition que les objets signifient à leur manière par leurs contrastes ou leurs avatars, et particulièrement ceux qui entourent Emma, paysanne d'origine, aristocrate en désir, petite bourgeoise dans sa vie. C'est justement l'époque où le kitsch est en train d'émerger, et Flaubert, tel un archéologue, s'attache à reconstruire l'effritement presque imperceptible de l'aura dans son roman. Il y a un objet dans Madame Bovary qui illustre à la perfection le dépérissement de l'aura. C'est le fameux porte-cigare du vicomte. Céleste Olalchiaga a mis en évidence que de même qu'avant l'époque moderne, les souvenirs produisaient des cadavres culturels, ce que l'on appelle des reliques, qui relevaient toutes du sacré, avec le XIXe siècle et la marchandisation, les souvenirs connurent une seconde mort qui les transforma en objets souvenirs. Objet mort dépourvu de dimension mystique, relique profane contaminée par le contact du monde. Mais la modernité a assené au souvenir un troisième coup mortel, Cette foudre destructrice ne fut autre que la reproduction mécanique, et les débris laissés par cet orage éclectique sont le kitsch, dit-elle. Le porte-cigare que Charles Bovary trouve sur la route au retour du château de la Vaubyessard, et dont Emma s'empare sur le champ, dans l'illusion qu'il avait appartenu au vicomte avec qui elle avait valsé, est soumis par Flaubert à l'action de l'érosion moderne jusqu'à le faire tomber en poussière. Dans cet étui, tout brodé de soie verte et blasonné à son milieu comme la portière d'un carrosse, Emma renferme ses désirs et les souvenirs du bal, où, tel Cendrillon, elle avait même pu danser avec un prince charmant. À la Vaubyessard, elle était entrée dans le sanctuaire de la noblesse, et pour la première fois de sa vie, elle côtoyait les marquis et les marquises, écoutait leurs conversations et admirait toutes ces choses luxueuses que jusqu'alors elle n'avait pu voir que dans les romans. Tout dans ce château lui semblait si merveilleux parce que tout lui paraissait unique et authentique. Le porte-cigare, où elle condense toute l'expérience qu'elle a vécue, devient dans sa pensée un objet fétiche, une sorte de relique qu'elle ne sortira de sa cachette, une armoire en manière de reliquaire, que pour mieux l'admirer, la sentir et la vénérer. À qui appartenait-il ? Au vicomte. C'était peut-être un cadeau de sa maîtresse. On avait brodé cela sur quelques métiers de palissandre, meubles mignons que l'on cachait à tous les yeux, qui avaient occupé bien des heures et où s'étaient penchées les boucles molles de la travailleuse pensive. Un souffle d'amour avait passé parmi les mailles du canevas. Chaque coup d'aiguille avait fixé là une espérance ou un souvenir, et tous ces fils de soie entrelacés n'étaient que la continuité de la même passion silencieuse. De cet objet, sur lequel elle projette ses désirs en imaginant la figure spéculaire et idéale, émane pour Emma un éclat invisible, une aura semblable à celle que possèdent les objets authentiques, élaborés pendant la période pré-industrielle, qui conserve, comme l'avait observé justement Benjamin, la trace des mains qui les avaient créés. L'aura du porte-cigare s'étend même sur le vicomte et sur Paris, où il demeure. Le cercle dont il était le centre peu à peu s'élargit autour de lui, et cette auréole qu'il avait, s'écartant de sa figure, s'étala plus loin pour illuminer d'autres rêves. Comme les ondes d'une pierre dans un étang, le désir d'Emma ne cesse d'agrandir l'auréole dont elle entourait la relique de la Vaubyessard. Mais l'artisane romantique qui élaborait un objet unique avec passion et amour ne semble plus exister que dans son imagination. Comme le prouve justement le porte-cigare, tout pareil à celui du vicomte, qu'elle offrira quelque temps plus tard à Rodolphe quand il sera son amant. L'objet qui semblait unique apparaît soudain, non sans quelque discrétion, comme un produit fabriqué en série, comme identique à des milliers d'autres, qui ne conservent de l'aura qu'un reflet vulgaire, comme si l'on avait enseveli sous une poudre aussi brillante qu'artificielle. Au fil des pages, le porte-cigare aura donc parcouru un chemin poussiéreux à travers lequel la relique affective finit par devenir du simple kitsch. Autour d'Emma, tout devient banal et répétitif. Et même le château aristocratique de la Vaubyessard manque d'authenticité, car, comme avait eu soin de le préciser le narrateur, il s'agissait d'un bâtiment de construction moderne à l'italienne, c'est-à-dire de style néo-renaissance, qui ne conservait de l'ancien château démoli que les remises et les écuries. La serre chaude, par exemple, était avec son orangerie, qui menait à couvert jusqu'au commun du château, une composition récente dont le principe constructif, inspiré justement des jardins anglais, s'était imposé en France à partir de 1835. Dans cet univers en pleine évolution, il n'y a qu'Emma qui cherche encore l'authenticité des choses et des sentiments. En ce sens, on aurait tort de confondre l'héroïne de Flaubert avec une personne kitsch. Elle serait plutôt, pour ainsi dire, un prototype qui ne parvient pas encore à matérialiser ses images de désir. Figure à laquelle pouvaient s'identifier bien des femmes de son temps, Emma est aussi un premier exemplaire que la précocité condamne à disparaître au profit d'autres avatars plus adaptés à leur temps. Aussi, Emma se débat-elle encore entre la quête de l'authenticité d'origine romantique et son irrésistible besoin d'imitation. Et en poursuivant une unicité en voie de disparition, déjà fantasmagorique à son époque, elle était vouée à passer comme une étoile filante dans un monde fugitif où le kitsch était seulement alors en train de prendre. On mesure bien la situation contradictoire d'Emma en la comparant à l'une de ses descendantes littéraires immédiates, Annana, le personnage du roman homonyme de Zola. Née en 1851, Nana éprouve déjà une passion nostalgique pour le kitsch, de son enfance qu'elle retrouve dans les passages parisiens. Je cite, « Elle adorait le passage des panoramas. » Nana adorait le passage des panoramas. C'était une passion qui lui restait de sa jeunesse pour le clinquant de l'article de Paris, les bijoux faux, le zinc doré, le carton jouant le cuir. Quand elle passait, elle ne pouvait s'arracher des étalages, comme à l'époque où elle traînait des savates de gamine, s'oubliant devant les sucreries d'un chocolatier, écoutant jouer de l'orgue dans une boutique voisine, prise surtout par le goût criard des bibelots à bon marché, des nécessaires dans des coquilles de noix, des hottes de chiffonnier pour les cure-dents, des colonnes Vendôme et des obélisques portant des thermomètres. Contrairement à Nana, l'aristocrate en désir qu'est Emma serait bien incapable d'apprécier le genre de bonheur que produit tout ce kitsch. Ne parvenant pas à trouver la félicité, autre catégorie du bonheur beaucoup plus élevée, et le vrai qu'elle recherche désespérément, l'héroïne de Flaubert finit par s'égarer dans un univers idéal, dans les attirantes fantasmagories de la réalité sentimentale, composée d'images de désir qui ne sont plus que des mirages d'un temps fantaisiste et somptueux, déjà évaporé où elle aimerait pourtant pouvoir se reconnaître. Oiseau de passage, hirondelle, comme le suggère le nom de la diligence qu'elle prend pour rencontrer son amant, Emma appartient à un monde en pleine transition. Elle est une figure qui s'est perdue dans l'un de ces passages de Paris, aux glaces abondantes, dont la grandeur en décadence furent contemporaines de son existence et qui nous renvoie justement son image. Car ce phénomène urbain, comme l'a souligné Céleste Olalchiaga, illustre mieux que tout autre la destruction de l'aura. Pris entre deux époques et inaugurant le consumérisme moderne, dit-elle, les passages parisiens sont un signe avant-coureur du kitsch. On pourrait en dire tout autant de Madame Bovary. Les passages parisiens, véritables précurseurs du Crystal Palace, qui connurent une vogue extraordinaire entre les années 1825 et 1840, ont brillé d'un éclat aussi intense que bref. Flanqués de magasins de nouveautés, ces galeries vitrées qui traversaient les bâtiments d'un bout à l'autre, ayant souvent la forme d'une croix à l'instar d'une église, devinrent bien vite des lieux de mode et à la mode. Jusqu'à l'avènement des grands magasins, après la moitié du XIXe siècle, une multitude d'individus, riches et pauvres, hommes et femmes, vinrent flâner librement dans ces rues intérieures, coller leur nez à des vitrines où, pour la première fois, on pouvait contempler et désirer les nouveautés que la moderne déesse de l'industrie venait de créer. Lieu de passage, ces galeries étaient aussi des temples du désir, d'un désir fugitif suscité par toutes sortes d'articles, mais aussi par ces hirondelles, comme on les nommait, qui au premier étage faisaient la fenêtre, des anges séduisants qui, au dire de Benjamin, réunissaient en un même corps la vendeuse et la marchandise. Domaine public et privé, serre et galerie, lieu de transit et d'arrêt obligé, rue et demeure, le passage était donc un espace d'une ambiguïté fascinante. Coincé entre deux époques comme entre les rues et les bâtiments, le passage parisien devint aux yeux de Benjamin un fossile où l'on pouvait sentir la présence de l'ange de l'histoire. Ici, le temps semblait être palpable. On pouvait y reconnaître l'émergence d'un nouveau monde qui se mélangeait avec les fragments d'un autre monde ancien en voie de disparition. C'est dans ces serres commerciales que l'on greffa le kitsch sur les images de désir, des images de rêve et de désir collectif, des mirages où s'entrelaçaient le nouveau et le passé mythique, les articles de l'industrie et le monde utopique du pays de Cocagne ou idéal du royaume des fées. Et de même qu'à l'intérieur de ces passages, toute une époque rêva les images de désir qui finiraient par se matérialiser à l'époque suivante en forme de kitsch, Emma Bovary fut le rêve nostalgique des lecteurs de l'avenir. Madame Bovary est un livre de passage. C'est d'abord un passage qui commence par un rite de passage, que le nouveau habillé en bourgeois, coiffé de son casque ridicule, est condamné à souffrir en arrivant au collège. Il y entre en cinquième, mais, si son travail et sa conduite sont méritoires, il passera dans les grands où la paix son âge. Mais ce début est aussi, à juste titre, un morceau d'anthologie, le premier des passages qui se succèdent tout au long du roman et qui semble avoir été écrit ad hoc pour figurer dans un recueil de morceaux choisis ou même dans un manuel de français digne d'en extraire des dictées. On conviendra à ce propos que Madame Bovary est un roman structuré de passage en passage, comme une sorte de jeu de lois littéraires, contrairement par exemple à l'éducation sentimentale. On peut aller par exemple de la casquette au gâteau de noces, du bal de la Vaubyessard au fameux comice, du panorama de Rouen à l'opéra, du rendez-vous à l'intérieur de la cathédrale à l'agonie d'Emma. Passage, passage, passage. Enfin, il y a cette héroïne qui est de passage, cette hirondelle qui n'est là que le temps d'un printemps, qui, les ailes déployées, avide de s'envoler vers l'infini, ne cesse de contempler les ruines d'un passé sans s'apercevoir qu'elle est prise dans une tempête qui la pousse vers l'avenir. Ange de l'histoire, feuille prise dans un courant d'air qu'on appelle la fatalité, Emma ne cesse de voltiger à l'intérieur d'un passage dont elle est elle-même l'incarnation. Certes, loin de Paris comme elle est, elle ne traversera aucun passage élégant pour aller à la rencontre de son amant, comme le fera en revanche Madame d'Ambreuse dans l'éducation sentimentale. Elle, qui montait dans un fiacre, le renvoyait à l'entrée d'un passage, sortait par l'autre bout, puis, se glissant le long des murs, avec un double voile sur le visage, elle atteignait la rue où Frédéric, en sentinelle, lui prenait le bras, vivement, pour la conduire dans sa maison. Mais c'est néanmoins à l'entrée d'un passage qu'Emma et Léon, après la représentation de Lucie de la mère Moore, décident de se revoir le lendemain afin de renouer leur relation. Et l'on se sépara devant le passage Saint-Herblain, au moment où 11h30 sonnait à la cathédrale. Simple galerie marchande à angle droit, couverte en 1828, à l'époque donc où Charles Bovary naît à peu près, construite sur les ruines de l'église du même nom, le passage de Saint-Herblain était bien loin d'exercer sur Emma la fascination du passage des panoramas ou la galerie Vivienne à Paris. Mais la vulgarité du lieu ne l'empêche pas pour autant de remplir une fonction sémiotique de passage, en préfigurant, comme l'annonce le son des cloches que l'on entend à l'entrée, le magnifique temple de commerce sexuel et culturel que deviendra la cathédrale de Rouen quand elle accueillera bientôt Emma et Léon. Car ce boudoir gigantesque, où le clerc attendra avec impatience... son idole finira également par devenir un immense passage commercial par l'intervention d'un bedeau bien trop enthousiaste. On connaît la scène, dans l'article d'Anne Green, justement, elle explique comment toute la cathédrale devient pratiquement l'exposition d'une d'art propre d'une exposition universelle comme celle qui aura lieu en 1855 à Paris. L'avenir est sur le point de rattraper Emma à ce moment-là, car Léon va jouer avec elle à transformer la ville de Rouen en un petit Paris à échelle réduite, une véritable ville kitsch. Et on verra dans son appartement, par exemple, bon nombre d'objets qui, à ce moment-là, seront tout à fait kitsch. Par exemple, un grand lit d'acajou en forme de nacelle, des ornements folâtres, de grandes coquilles roses entre les candélabres de la cheminée et couronnant le tout sur la pendule, un petit cupidon de bronze qui munaudait en arrondissant les bras sous une guirlande dorée. « Ils rirent bien des fois », dit le narrateur. L'avenir donc est sur le point de rattraper Emma, car le kitsch s'étale déjà partout. Et pour le moment, il semblerait que l'héroïne pourrait se résigner, s'installer dans un bonheur tranquille et confortable en étanchant sa soif d'infini et de luxe authentique avec ce genre d'objet. Mais ce monde de petit bonheur n'est pas le sien. Elle ne désire point d'ersatz. Elle n'accepte de vivre que des passions authentiques et ne veut posséder que du vrai. Le petit cubidon n'est à ses yeux qu'une image sympathique qui n'a rien à voir avec l'amour véritable qu'elle désire ardemment. Peu à peu, l'ennui s'emparera à nouveau d'elle et elle retrouvera dans l'adultère toutes les platitudes du mariage. Perdue à nouveau, comme le disait Flaubert de Frédéric Moreau, dans les décombres de ses rêves. De son aventure avec Léon, de ce noeud à l'eau de rose qu'ils avaient forgé, il ne restera plus qu'un inassouvissement aussi énorme que la dette qu'elle avait accumulée chez l'heureux. Et alors, elle comprendra que tout ment, que tout autour d'elle n'est que du clinquant et de la camelote. Et il ne lui restera plus qu'à saluer de façon dramatique et sortir de la scène pour que l'homme kitsch qu'est Homais puisse y prendre sa place. Il n'hésitera pas, lui, à s'acheter deux statuettes chic Pompadour pour décorer son salon. Et même, en manière de fétiche invocatoire, à faire dessiner dans son jardin un gazon figurant l'étoile de l'honneur avec deux petits tordillons d'herbe qui partaient du sommet pour imiter un ruban. C'est que le kitsch triomphe enfin partout. Il ne reste plus aux pharmaciens qu'à recevoir la croix d'honneur. Merci.
Merci. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques?
Oui. Non, je voulais, parce que je me suis intéressée à cette question du kitsch, il n'y a pas si longtemps, hein, dans un article que je t'ai remis, qui va être publié à propos de la mort d'Emma Bovary. Mais je vais pas être long, je voulais juste reprendre un point. Vous avez dit que finalement Emma Bovary était une charnière et qu'elle-même n'est pas un personnage kitsch. Je ne suis pas entièrement convaincue parce que quand on lit Herman Brock ou ensuite ce qu'un autre a pu écrire sur le kitsch, et vous l'avez rappelé, c'est bien, comme dit Herman Brock, le mal dans le système des valeurs, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui relève plus de l'éthique que de l'esthétique. La question du kitsch est peut-être moins celle du goût. Du mauvais goût, parce que les petits cupidons, je dirais qu'il y en a à Versailles et qui sont absolument effrayants. D'ailleurs, le côté kitsch de Versailles m'est apparu lors de l'exposition Jeff Koons à Versailles en disant, nom de Dieu, c'est le palais du kitsch. Donc, c'est moins une question finalement de goût que d'attitude par rapport à l'art. Et là, il y a une chose très juste que vous avez dit, mais il y a une seconde, moi, qui me paraît importante. Première attitude, c'est effectivement la confusion de l'émotion, c'est-à-dire remplacer l'émotion esthétique, ou ce qui devrait être l'émotion esthétique, dont on a tellement parlé au XVIIIe ou dans votre moderne, par du sentimentalisme. C'est quelque chose qui va glisser. Hein, quand elle regarde les prix Dieu, finalement, vraiment dans la chapelle, elle est prise, elle regarde le ciel étoilé, tout ça. Mais on voit que ce qui aurait dû être de l'ordre de l'émotion esthétique et d'élévation et du sublime devient du sentimentalisme. Ça, c'est une première chose que vous avez bien analysée. Mais il y en a une autre, qui me paraît aussi importante, et qui fait que Madame Verdurin sera pour moi celle qui incarne le kitsch. C'est-à-dire aussi l'idée d'une attente, de ce que j'appelle un retour sur investissement. C'est-à-dire qu'il y a à l'égard de l'émotion esthétique un utilitarisme. Il faut que cela vous rapporte quelque chose. Alors aujourd'hui, on pourrait dire du prestige social, c'est pour ça qu'on collectionne l'art contemporain le plus cher possible, parce que il y a une espèce de capital symbolique, n'est-ce pas, etc. Mais ça peut être une autre nature. Et donc c'est ce côté aussi utilitariste, hein, c'est pas simplement que l'objet est industrialisé, ce qui est vrai, et donc qu'il n'est plus fait avec la main, l'artisan, etc., voire l'industriel, mais c'est aussi l'attitude que l'on a à l'égard de cela, et donc cette, entre guillemets, ce que j'appelle l'utilitarisme, qui va du prestige social à d'autres attentes d'ailleurs, hein, voilà, et qui fait qu'on a affaire à du kitsch comme attitude, et pas intrinsèquement liée à la question de l'objet ou du goût. Voilà, c'est simplement ce que je voulais préciser. À part ça, je signale qu'il y a une lettre de Renan, qui l'a repris d'ailleurs dans un autre essai, où Renan s'étonne à propos du Crystal Palace, où sont des grosses scientifiques, des millions de gens qui se sont déplacés pour voir de la marchandise. C'est étonnement pour ce déplacement pour aller voir de la marchandise. Ça me paraît hallucinant. Mais vous voyez ce que je dis, le côté utilitariste en bourgeois. Bourgeois. Qui, c'est pour ça que je le précise, parce que justement, si l'art est confondu avec le romantisme, une sorte de sacralité, c'est parce que justement ça. Mon avis, c'est une totale illusion, mais ça apparaît comme la seule sphère qui n'est pas encore contaminée par le régime de sens bourgeois qui est, dans tous les domaines, l'utilitarisme. Et le kitsch, c'est de faire rentrer aussi là, dans la sphère de l'utilitarisme.
Tout à fait. Simplement, Hermann Broch, par exemple, soulignait que pour qu'il y ait du kitsch, il doit y avoir un homme kitsch. Et dans le cas présent, une femme kitsch. Alors on peut dire qu'Emma, moi je pense plutôt qu'elle est sur le point de le devenir, justement. C'est-à-dire, Flaubert le dit d'une façon très claire, elle n'aimait la verdure que quand elle était parmi les ruines.
Quand elle achète ce foutu pitié.
C'est la période.
Moi, j'imagine qu'après, elle n'en avait plus rien à faire, c'est juste que c'est un embarras qu'il fallait en plus nettoyer. Etc. Mais quand elle achète ce prix-dieu, il est bien évident que là, elle est femme kitsch. Parce que qu'est-ce qu'elle attend de ce prix-dieu ? C'est pas simplement qu'il est fétichisé et qu'il doit incarner. C'est simplement un transfert d'émotion. Elle pense que par là, quelque chose va lui être apporté. Et c'est cette attitude-là qui me paraît kitsch. Elle ne va pas simplement le contempler. Hein, dans son aura. D'ailleurs, elle le regarde l'aura, et c'est la perte de l'aura, sans doute de manière distraite. Mais elle en attend quelque chose. Elle en attend quelque chose, me semble-t-il.
Mais elle ne parvient pas, quand même. Parce
non,
que
c'est
toute cette période.
Elle en attend. Ce qui est kitsch, c'est d'attendre quelque chose de là. Qu'est-ce que ça oui. va me donner, me produire, me faire. Évidemment,
Benjamin emploie une image qui est intéressante parce que dans le cas de Benjamin, il n'y a pas beaucoup de moments où il relationne le kitsch avec la perte de l'aura. Il le fait un peu quand même, il le fait dans un petit article qui s'appelle Oniro Kitsch, où il parle justement de la relation telle. Alors, il soutient dans une certaine mesure que le kitsch s'établit comme pas préliminaire à travers ce qu'il appelle les images de désir. Alors, les images de désir, c'est le domaine justement d'Emma. Elle cherche à construire autour d'elle toute une réalité sentimentale, tout à fait, qui est déjà, en ce sens-là, kitsch. Le problème, c'est qu'elle n'arrive pas quand même à consolider ce sentimentalisme dans les figures qu'elle retrouve. Alors, par exemple, lorsque Léon construit autour d'elle toute cette ville absolument prodigieuse qui est du Paris kitsch, en fait, à échelle réduite, elle ne parvient pas. Le temps d'un instant, on a l'impression que si, ça la fait toujours sourire. Et dans la scène où justement elle essaie d'avoir des pièces pieuses, elle n'arrive pas non plus. Elle lit des livres qui sont littéralement, Flaubert le dit comme ça, fabriqués par quelques séminaristes, anciens séminaristes, fabriqués. Donc déjà des livres qui sont conçus pour être consommés. Et pourtant, elle ne trouve pas dans ces textes-là ce qu'elle cherche. Je pense, c'est pour ça, c'est l'hypothèse que je soutiens ici, Emma est en pleine transition. Elle cherche quelque chose qui est en train de se construire à ce moment-là, que Flaubert a déjà vu de façon très nette en 1851. Il faut imaginer ce qu'était le palais de cristal à ce moment-là. Entrer dans ce magasin-là, c'était voir le kitsch étalé par milliers et milliers, avec un décor absolument somptueux, mais qui est en réalité imitation. Des statues grecques qui étaient en réalité non pas de marbre, mais de plâtre, etc., etc. Donc lui voit précisément ce qui est devenu. Et l'éducation sentimentale, là on peut dire que c'est déjà le moment où le kitsch est tout à fait consolidé et construit. Alors que dans la période qu'il raconte avec Emma, primo, elle cherche l'authentique alors qu'elle-même ne peut pas y accéder parce qu'elle n'appartient pas à l'aristocratie ni à la haute bourgeoisie. Et en plus, ce kitsch, qui pourrait peut-être faire l'affaire pour un autre personnage, tel que Nana, il n'existe pas encore pour elle. Elle n'est pas capable de l'apprécier parce qu'elle cherche le vrai là où il n'y a pas de vrai.
Attendez, on a complètement dépassé le temps. Alors maintenant, non, vraiment, bon, il faut être bref aussi. Parce que
je préciserai, je ne sais pas, c'est quoi de ça dont il s'agit.
Attendez.
Oui, je crois que
Marc, et puis.
Est-ce que c'est juste un détail. Je suis plutôt d'accord avec l'idée de médiation parce que, à la fois, peut-être que ce qui ressort de votre exposé, c'est une idée peut-être trop. Trop hégémonique quand même de la présence du kitsch. Je ne suis pas sûr que ce soit aussi. Bien sûr, ça va peut-être. Mais c'est quelque chose qui se construit. Est-ce que vraiment c'est le mot qui définit cette volonté claire exprimée par Flaubert de mettre en procès l'industrialisation de l'esthétique, de l'art? Ah, il y a des passages de la correspondance tout à fait claire, Guelon contre le Macintosh, le machin, le Sénégal, qui sont contemporains de l'écriture. On n'est pas encore physiquement et historiquement à l'époque où on ne trouve pas de l'anti-kitsch. C'est-à-dire que quand Flaubert dit, il y a des montres qui ne coûtent rien du tout, on peut en acheter. C'est dégoûtant. Moi, je veux m'acheter une montre à 2000 francs que je garderai toute ma vie. On est dans cette période où il y a encore l'objet ancien artisanal qui est produit, qui coûte très cher, qui est d'origine artisanale pour l'aristocratie. De même, le bal à l'oublier, ça, c'est pas entièrement clair, quoi, le statut. Il y a le côté fabriqué, vous avez bien rappelé, mais il y a aussi dans le premier ça, la mémoire de la soirée du Véron, chez le comte de Beauvreux, qui n'est pas tout à fait du kitsch pour Flaubert. C'est même une nuit existentielle, c'est un moment de prise de conscience d'un statut social et d'un rêve. Oui, kitsch, mais enfin, mais confronté encore à l'existence d'une sorte de rêve, peut-être de nostalgie, du sens, qui serait pleinement incarné, quelque part. Enfin, j'ai l'impression.
C'est justement ce que je voulais penser, enfin, présenter ici, parce que, bien entendu, enfin, j'ai focalisé l'ensemble, et on a l'impression que Madame Bovary est un livre écrit comme un livre des passages pour montrer justement où attaquer le kitsch. C'était pas mon intention, bien entendu. Ce que je n'étais pas du tout d'accord en fait avec l'idée qui est répétée à plusieurs reprises qu'il y a du kitsch dans Madame Bovary. C'était là justement ce que je voulais montrer, c'est-à-dire qu'il y a effectivement du kitsch, mais du kitsch en pleine formation. Alors comment montrer justement quelque chose qui est en train de se constituer, c'est quelque chose d'assez difficile. Alors Flaubert est en train de jouer constamment et il aide le lecteur d'ailleurs à s'orienter. Le cas du porte-cigare, il le fait avec une grande discrétion. Le porte-cigare, c'est un objet tout à fait authentique, mais qui peu à peu dérive vers quelque chose qui est simplement reproduit à la chaîne déjà à cette époque. Donc c'est cette période justement, ce changement, non, qui... Je ne suis pas sûr que Flaubert ait pensé à faire ce projet-là. Il ressent probablement tout ça d'une façon très intense. Et le fait même qu'il n'y ait pas de mots à cette époque-là pour désigner ce phénomène est déjà symptomatique. D'ailleurs, il faut dire qu'en France, on utilise le mot kitsch seulement à partir des années 60 et 70. Et la traduction que j'ai française du livre de Herman Brock, curieusement, n'utilise jamais le mot kitsch. Ils l'ont traduit par art de pacotille et autres tels. C'est-à-dire qu'en France, pendant très longtemps, on n'a pas utilisé ce terme-là. Et à l'époque de Flaubert, on les voit qui cherchent les mots. c'est un art de pacotille, on emploie ce mot-là, de l'art pour tout le monde. Dans un texte, Baudelaire même se parle à un moment donné du chic et du poncif, et on voit que c'est très proche de ce que l'on entend aujourd'hui par kitsch, mais il n'y a pas de mot parce qu'en réalité, il n'y a pas véritablement de concept à ce moment-là. C'est quelque chose qui est en pleine formation. Et encore, après 1851, quand je dis que Flaubert voit là tout un étalage de kitsch, il n'est probablement pas capable de voir ce que nous, nous voyons aujourd'hui de façon rétroactive, où nous vivons une époque où le kitsch est même tout à fait dépassé, c'est-à-dire où on peut, sans aucun problème, mettre une œuvre d'art contemporaine au Palais de Versailles, et ça produit un effet tout à fait différent. À cette époque-là, c'était tout à fait inconcevable. Mais Flaubert va activer quelque chose qui sera une sorte de, moi j'appelle ça du kitsch vaccinal. Il va insérer dans son roman un kitsch qui est tout à fait ironique pour démonter ce système. La seule façon de lutter contre le kitsch, c'est introduire l'ironie et introduire un kitsch qui sait qu'il n'en est pas un. C'est quoi la casquette de Charles Bovary? C'est de l'hyper-kitsch, mais c'est de l'hyper-kitsch qui est encore artisanal. C'est sa famille maternelle qui l'a fait.
Oui,
c'est
aussi...
Bon, maintenant, c'est à la fin.
Voilà. De rappeler...
Bien sûr, enfin, c'est pas seulement ça. Hein, le problème, excusez-moi, simplement une chose. Le problème de cette casquette, c'est qu'elle signifie tellement de choses que ça devient un objet hyper symbolique. Donc, il prend absolument énormément de contenu à la fois. C'est un fétiche aussi, sexuel, etc. Il y a plein de. Donc, simplement ici, je me limite à dire ce que c'est en rapport avec mon exposition.
Ça va peut-être un peu dans la direction que vous avez indiquée maintenant. Je souhaitais très comprendre l'application du terme du kitsch aux ouvrages de Flaubert. Quand même, je n'ai pas compris la définition exacte chez vous. Vous avez parlé, à un moment, vous avez dit qu'il s'agissait de provoquer un effet sentimental. Et vous avez aussi souligné qu'il s'agit d'un phénomène religieux. Et la tentative de déguiser la perte de croyance. Donc c'est un phénomène qui a beaucoup de pouvoir. Et maintenant je me suis demandé si vous concevez ce phénomène comme un phénomène intemporel qui existe depuis existaient toutes les religions, ou s'il marque une césure historique. Un moment précis. C'est ce que je n'ai pas tout à fait compris. Il me semblait que vous avez mélangé un peu.
Non, le problème, c'est que justement, il y a un débat là-dessus. C'est, est-ce que, quelle est l'origine du kitsch? À quel moment naît le kitsch? Alors, la théorie par excellence, c'est relationner, mettre en commun la naissance du kitsch avec l'avènement de la démocratie, c'est-à-dire un art qui est fait pour un grand monde, pas pour les masses, et avec l'avènement de l'industrialisation en tant que phénomène qui est en rapport avec la reproduction technique, etc. Mais il y a également beaucoup de monde, Roberto Calasso par exemple, l'italien, soutient que le kitsch a existé depuis toujours et que ça dépend un peu de chacune des périodes. Le rococo par exemple serait une période kitsch en ce sens-là. Donc on ne se met pas d'accord là-dessus sur ce que c'est. Ni les grands théoriciens des ans du kitsch ne sont capables de déterminer. Parce que, comme disait Françoise Gaillard, ça a beaucoup à voir avec la vision. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on contemple ça?
C'est plus que... C'est dans les... Voilà, la confusion, c'est pour ça que je reprends une seconde. Est-ce que c'est dans les objets? Et à ce moment-là, ça a toujours existé. On peut imaginer que même...
Pas nécessairement.
Il y avait des objets qui étaient faits pour l'heure.
Dans la
est-ce que c'est dans les objets ou, comme le montre, je crois, de manière tout à fait remarquable, Hermann Broch, ensuite Adorno, est-ce que c'est dans l'attitude que l'on a par rapport à ce qui est censé être de l'ordre, appartenir à la sphère de l'esthétique? Je termine. Les gens qui font des queues pour aller voir l'exposition Monet sont dans le kitsch tel que le comprend Broch. C'est pas Monet qui est kitsch, c'est justement ce que je disais à la fois. Le passage de l'émotion esthétique à une espèce de sentimentalisme, et puis le retour sur investissement, le soir dans le dîner, vous avez vu Monet, etc. C'est ça, me semble-t-il, qui est le kitsch tel qu'il va apparaître dans, à ce moment-là, de la réflexion dans la philosophie allemande. C'est tout. C'est pour ça que je disais que la distinction s'impose.
Je
Et en ce sens, Madame
Bovary. Mais à mon avis, on pourrait vraiment renverser, enfin, on pourrait renverser la question. Oui, on pourrait renverser la question, et je trouve que ce serait beaucoup plus intéressant pour votre analyse. C'est-à-dire que Flaubert est un des analystes les plus atroces, pourrait-on dire, de ce phénomène. C'est pour ça qu'à mon avis, il ne faut pas voir. Est-ce que c'est du quiche ou c'est pas du quiche? Parce que Flaubert décrit un phénomène moderne tel, beaucoup mieux que Braque, beaucoup mieux que Benjamin, beaucoup mieux que tout le reste. Et il dit, c'est-à-dire qu'il faut renverser la procédure, il faut voir ça de l'intérieur de Flaubert. Et si on le voit de l'intérieur de Flaubert, on arrive, à mon avis, à une définition infiniment plus puissante de ce que c'est que le kitsch, justement, que si on utilise Benjamin, parce que c'est beaucoup mieux dans Flaubert. Enfin, oui.
De l'intérieur d'une œuvre, oui. Qui elle ne doit pas être.
Non. Justement.
C'est ça, parce oui. que ce que vous dites est important, c'est-à-dire que ce regard sur, je suis tout à fait d'accord sur la perception de quelque chose qui émerge, comme ça, d'un risque, de passage, de transformation. Mais en fait, c'est comme, et là, tu évoquais Baudelaire à plusieurs reprises, je crois que c'est très proche de Baudelaire.
Tout à fait.
Que il faut en même temps faire une œuvre qui elle ne soit pas riche, qui soit d'une beauté nouvelle. Sur ce passage de la déchéance des choses, de la réduction des choses, et ça, et en particulier, du frelaté éthique, de l'esthétique, enfin, si on peut définir le kitsch comme ça. Et c'est ça, c'est donc de l'intérieur de l'œuvre qu'on peut percevoir ça.
Je peux répondre un instant simplement.
Un instant.
Oui, je serai très bref dans,
oui, je sais,
dans,
c'est
dans
le
ma réponse.
Que voulez-vous que j'y fasse enfin, bon, alors un instant.
Oui, dire simplement que je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Françoise Gallien. Enfin, pour des raisons de présentation, j'ai dû, focaliser sur l'aspect industriel et tout ça. Mais il est clair qu'il ne peut y avoir de kitsch, même si on avait tous les procédés, disons, de reproduction technique, et même à l'heure actuelle, il ne peut y avoir de kitsch que s'il y a des gens qui sont disponibles pour goûter ce kitsch. Ça, c'est très net. On peut même être un milliardaire, et ça arrive très souvent, avoir une œuvre authentique et la transformer en kitsch. Je donne un exemple. Imaginons que je suis propriétaire de la Joconde. Je mets la Joconde dans mon ascenseur de mon super bâtiment à New York. Cette Joconde est devenue immédiatement un objet kitsch.
Elle est au Louvre.
Elle est au Louvre, déjà transformée, mais dans ce cas-là, ça devient encore plus visible, je veux dire. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Le propriétaire a un goût kitsch, et ça n'a rien à voir, en fait, avec l'élaboration même de cet objet. Le problème, c'est que ceci, nous vivons déjà à l'heure actuelle, à une période où on construit des objets kitsch, et où on transforme les objets qui sont authentiques en des objets kitsch, parce qu'on a une véritable épidémie kitsch autour de nous. Alors qu'à l'époque de Flaubert, c'est un moment où ça apparaît, ça surgit. Et donc Emma est une personne qui va fleurir à ce moment-là, parce qu'elle a déjà en elle quelque chose. Mais en même temps, elle cherche l'authentique, alors que l'authentique n'existe plus. Et elle ne se contente pas non plus de cet aspect-là. C'est justement là la difficulté de parler de ce passage.
Dernière question, sans réponse.
Il me semble qu'on ne peut pas parler, on peut parler de homme kitsch, femme kitsch, on ne peut pas parler de homme poncif ou homme ou femme poncif. Il me semble que c'est un peu le sens que cette manière de parler du kitsch en partant de l'économie, le sublime à bon marché, ou du religieux, c'est un religieux à bon marché, etc. Il faudrait peut-être réfléchir si, avec le kitsch, la situation se transforme dans l'ensemble. Le poncif, c'est une manière de produire quelque chose. Baudelaire utilise l'expression les singes du sentiment. Ce sont ceux qui savent singer les sentiments, mais qui ne sont pas eux-mêmes dans le kitsch comme sentimentalisme. Et il me semble que cette idée que tu as proposée, parler d'une certaine économie, d'une économie intériorisée, pourrait peut-être servir pour décrire le phénomène de kitsch, parce que le fétichisme dont parle Marx, c'est pas une économie intériorisée dans le sens du kitsch, c'est un fétichisme qui transforme quelque chose dans une illusion. Mais le kitsch, c'est une manière d'introduire l'économie à l'intérieur. Un petit marché à la tête. Ça me semble intéressant.
Oui. Ah. Alors, une idée, enfin, une suggestion. Oui. D'accord. Alors, on fait une pause. On se revoit ici à midi, hein, un quart d'heure. Et je crois qu'il faut revoir l'emploi du temps.